Accent d'Europe, Juliette Garbrand.
Bonjour et bienvenue dans Accent d'Europe. J-3 en France avant le premier tour des législatives et l'extrême droite est en tête dans les sondages. Rarement, sans doute, une élection aura-t-elle été scrutée de si près par nos voisins européens. La dissolution de l'Assemblée nationale au soir des européennes a provoqué chez la plupart d'entre eux surprise et perplexité. En Allemagne, c'est l'inquiétude qui domine. Les partis républicains redoutent les conséquences de la décision du président Macron sur la relation entre les deux capitales et ils se demandent comment répondre efficacement et durablement à la montée de l'extrême droite. À Berlin, Delphine Nerbollier.
Guten Abend, willkommen zu den Tagesthemen am Ende eines bemerkenswerten Europawahlsonntags.
Difficile d'expliquer actuellement aux Allemands ce qui se passe en France. L'annonce de la dissolution a eu l'effet d'un choc outre-Rhin. Même le chancelier Olaf Scholz est sorti de sa réserve habituelle ce week-end.
Je me fais du souci pour les élections en France, je le dis clairement. Et j'espère que les partis qui ne sont pas celui de Le Pen, pour le dire comme cela, gagneront ces élections. Mais sur ce point, ce sont les Français et les Françaises qui décident.
La surprise a été d'autant plus forte qu'en Allemagne comme en France, les partis au pouvoir sont sortis très affaiblis des élections européennes. Mais de là à dissoudre le Bundestag, c'est une autre affaire. L'idée a certes été lancée par l'opposition, mais sans être retenue. Cette pratique n'est pas dans les habitudes du système parlementaire allemand. Comme le rappelle Stéphane Cornelius, il est éditorialiste au quotidien Süddeutsche Zeitung. Nous le joignons par téléphone à Munich.
C'est fascinant de voir à quel point l'Allemagne et la France sont différentes. En Allemagne, notre système est conçu sur la peur de nous-mêmes, de sorte que nous ne prendrions jamais de tels risques. C'est pour cela que notre constitution exclut la possibilité d'élections anticipées ou de dissoudre le Parlement. C'est très clairement une conséquence de notre passé, de notre expérience. Nous sommes en cela très allemands et nous ne comprenons pas l'esprit des Français. Et par ailleurs, nous n'avons pas vraiment confiance dans la stabilité de la société française.
Ce journaliste réputé et influent en Allemagne n'a d'ailleurs pas de mots assez durs envers le président français.
Je ressens de la peur et de l'inquiétude. C'est la crainte d'entrer dans une nouvelle ère où tout se passe de manière incontrôlée et irréfléchie, sur la base d'un coup de sang, d'une émotion. L'Europe et l'Allemagne n'ont pas besoin de cela actuellement. À mon avis, les politiques sont plutôt appelées à projeter du calme. Et si je peux comprendre les motivations du président, je ne trouve pas sa décision intelligente.
La crise politique en France fait réfléchir outre-Rhin, car en Allemagne aussi, l'extrême droite est en forte progression avec le parti AfD. On dit même que le pays se normalise en la matière, car l'extrême droite n'est revenue dans le paysage politique que depuis 10 ans. Elle reste toutefois encore au niveau national, bien en dessous des résultats du RN français. Deux partis bien différents selon Marc Ringel, il est directeur du centre franco-allemand de Ludwigsburg.
Le Rassemblement national a mené cette stratégie pendant des décennies en fait de diabolisation, de normalisation en fait, tandis que notre AfD est vraiment, elle a pris la stratégie inverse, elle s'extrémise beaucoup plus et beaucoup plus rapidement. Donc c'est vraiment pour l'AfD des extrêmes que si on regarde près depuis des décennies maintenant, c'est d'abord le Front National puis le Rassemblement National qui a mené cette stratégie d'en bas vers le haut. C'est-à-dire d'abord gagner des villes, des petits territoires et puis rassembler ça à un niveau national. C'est une stratégie qui pourrait être suivie aussi par des partis moins extrêmes, mais déjà extrême droite, extrême gauche en Allemagne.
Vu d'Allemagne, on ne s'inquiète pas vraiment du nouveau Front populaire à gauche. Le danger, vu d'ici, concerne le Rassemblement national. Marc Ringel.
Niveau mental, on n'est pas sûr quelle politique la RN remènera vers l'Allemagne et vers la politique allemande. Voilà, la stratégie de la RN serait de se retirer un peu de l'Europe, penser l'Europe autrement. Je pense qu'on n'a pas vraiment peur de Frexit. On a très, très bien compris que Marine Le Pen a changé un peu l'opinion là-dessus. Donc ça, on a compris. Mais je crois qu'il y a aussi la confiance, en fait, Monsieur Macron, en tant que président, d'être garant d'une stabilité et une durabilité aussi avec les relations avec l'Allemagne.
En cas d'arrivée au pouvoir du RN en France, l'Allemagne pourrait-elle se montrer plus active et prendre le leadership européen? Peu y croient ici, car à Berlin aussi, le gouvernement est fragilisé. Une situation de statu quo, voire de possible blocage, qui ne présage rien de bon pour la dynamique européenne.
En Pologne, dans les rangs progressistes, c'est la stupéfaction. Le pays vient de tourner le dos au parti libéral Droit et Justice, le PiS. Michal Marszal, l'ancien journaliste qui avait organisé la retransmission des débats parlementaires au cinéma, après la victoire du camp libéral, en témoigne. Selon lui, la gestion du pouvoir par le PiS devrait servir de contre-exemple en Europe. Il l'a expliqué à notre correspondant Adrien Sarla.
Globalement, le PiS s'est saisi des institutions car chaque gouvernement fait pareil. Il arrive au pouvoir et place ses partisans aux places de pouvoir. Mais le PiS est allé si loin dans cette stratégie qu'il a modifié plusieurs institutions. Il ne pouvait pas modifier la Constitution car il n'avait pas de majorité absolue pour le faire, mais il a bétonné le pays avec différentes lois établissant un nouvel ordre dont le nouveau gouvernement n'est pas en mesure de se débarrasser aujourd'hui. En arrivant au pouvoir, ils avaient déjà les mains liées. Les Français feraient bien d'apprendre des erreurs des Polonais et de ne pas commettre l'erreur de donner le pouvoir à l'extrême droite, car ici, elle a failli faire sortir la Pologne de l'Union européenne. Tout ça parce qu'ils n'aimaient pas qu'on leur dise de respecter les droits de l'homme et la démocratie, l'indépendance de la justice. Par chance, chez nous, c'est en train de changer. Mais les Français sont en train de s'engager vers une grosse erreur.
Pour Michal Marszal, le contexte de la guerre en Ukraine rend particulièrement alarmante la possibilité que Marine Le Pen et son parti, qui sont bien connus en Pologne, accèdent au pouvoir.
On a peur qu'elle arrive au pouvoir, car ça aura une influence sur la position de la France vis-à-vis de l'Ukraine. Et ça risque de ruiner les efforts que Macron a engagés contre Poutine. Ça peut vite devenir un problème pour nous, les Polonais, car la Russie peut venir toquer chez nous à n'importe quel moment. Donc on regarde tout ce qu'il se passe avec beaucoup d'inquiétude.
Des propos recueillis par Adrien Sarla. Le nombre de personnes sans domicile a doublé en 10 ans en France, selon la Fondation Abbé Pierre et l'Institut national des statistiques. Elle serait 330 000 environ, dont de plus en plus de familles. Près de Lille, avec l'aide d'une association, un entrepreneur a décidé d'ouvrir les portes de bureaux vacants à une trentaine de sans-abri, dont des enfants, pour quelques mois de répit. Reportage Lise Verbeck.
De l'extérieur, on pourrait croire à des bureaux d'entreprise classiques, comme dans les bâtiments qui se trouvent ici, en périphérie de Bondy. Mais à l'intérieur, les 350 mètres carrés de locaux sont devenus une maison pour 8 familles, 33 personnes dont 20 enfants, originaires du Congo, d'Algérie, de Tunisie ou encore d'Arménie.
Là, on arrive dans l'espace commun, salon, salle à manger.
Kathleen Danis, de l'association Le Souffle du Nord, qui coordonne le projet.
Tout autour, du coup, on a des chambres qu'on a cloisonnées par des armoires et pour l'intimité, on a rajouté des rideaux occultants. La cuisine, donc là, ici, c'est 8 familles, mais c'est surtout une grande famille. L'objectif ici, c'est aussi de les responsabiliser et qu'ils se sentent chez eux. Donc ils s'occupent du ménage, ils s'organisent entre eux par rapport aux machines à laver, les sanitaires. Ouais, ils ont trouvé leur mode de fonctionnement.
Dans la cuisine, cet après-midi-là, Wafa prépare des pâtisseries pour l'Aïd.
On est bien ici, on est à l'abri, on a tout. On profite de cuisiner, de préparer des gâteaux.
Elle est venue d'Algérie avec son mari et ses 4 enfants. Ils ont habité dans un garage. Et lors des températures glaciales en décembre dernier, la famille a été mise à l'abri dans un gymnase. Et c'est là que Wafa a reçu un appel de la mairie de Lille.
Elle m'a dit, aujourd'hui à 17h, vous attendez devant l'école de votre enfant. Avec vos bagages, avec vos enfants, vous allez partir à Bondy. Comme ça, là-bas, vous allez reposer, vous allez prendre la douche, vous allez rester, comme on dit, une longue durée.
6 mois au total dans ce lieu, baptisé par les habitants le Kilimandjaro, montagne de lumière. Ces bureaux appartiennent à François Bouy.
Ah, vous allez au Lego, génial.
Il co-dirige un négoce de quincaillerie qui se trouve juste à côté.
Je me suis dit qu'au fond, j'avais ce bâtiment vide pendant quelques mois et que peut-être ce serait une opportunité d'expérimenter un dispositif qui n'existe pas. Et donc j'ai proposé au Souffle du Nord, qui pilote un peu toute l'opération, de mettre en musique tout ça.
Le Souffle du Nord a lancé l'opération « Plus personne à la rue » dans la métropole lilloise. Elle réunit des citoyens, des entreprises, des collectivités, des associations. La force du collectif qui a permis en quelques jours d'aménager le lieu. Une trentaine d'entreprises a fait des dons, selon Vindia Saravan, le directeur du Souffle du Nord.
Ça prouve que le tissu économique aussi peut avoir des leviers d'action. On parle des locaux, mais un lieu comme le Kilimandjaro, encore une fois, c'est 30 entreprises en plus de celles qui accueillent, parce qu'il a fallu équiper, trouver les meubles, trouver l'électroménager. En fait, il y a énormément de choses sur lesquelles on a impliqué le tissu économique, et chacun en faisant sa part. Et en plus, plus nombreux on est, et plus ça permet de répartir la charge, ben, ça permet comme ça de monter des lieux comme ça, très rapidement et sans aller chercher de financement pécunier, quoi.
Les collectivités se sont aussi impliquées. La ville de Bondu a notamment permis d'accélérer la mise en place du cadre réglementaire et juridique du lieu. La ville de Lille, elle, finance deux éducatrices spécialisées, présentes tous les jours au Kilimandjaro. Kauter va d'ailleurs régulièrement les voir.
Elle nous aide depuis l'aide médicale, les dossiers de l'aide médicale, le Croix Rouge, les restaurants du Caire, tout, tout. Tout on a besoin, on demande à Tiffany ou Mylène.
Arrête un petit peu, Daniel. Sinon, je te redonne des exercices à faire. Hein.
Donc, les familles ici sont en demande de régularisation. Donc, on les accompagne dans ces diverses démarches.
Mylène, l'une des éducatrices.
Il y a des parcours de vie qui sont extrêmement durs et des passages à la rue pour toutes ces familles. Ça, c'est le point commun. Ce qu'on fait aujourd'hui, c'est qu'on leur propose une parenthèse, en fait, un répit.
Les hébergements d'urgence sont saturés dans la métropole lilloise. Il est aussi compliqué de trouver des logements pérennes pour ces familles après le 30 juin, date à laquelle elles devront quitter le Kilimandjaro. Cette expérience reste donc temporaire, mais elle permet de sécuriser ces familles et de faire avancer leur dossier dans de bonnes conditions, explique le directeur du Souffle du Nord.
Tout ce qu'on a gagné là par rapport aux situations dans lesquelles elles étaient avant, il n'y a rien acheté de tout ça. Par contre, effectivement, ça révèle aussi qu'en sortie, trouver de la solution pérenne et idéalement vers le logement, même pas vers de l'hébergement. Bah aujourd'hui, on n'en est pas encore capable et c'est pour ça qu'on a monté ce projet Plus personne à la rue, pour essayer de se mettre autour de la table et de se dire, et ça va prendre du temps, mais de se dire peut-être à 10 ans, à 15 ans, on arrive à avoir un territoire où chaque personne va trouver une solution adaptée dans le pérenne. Effectivement, bah, cette table, le temps de la renverser, il va falloir un peu de temps. Et on est dans cette phase transitoire où effectivement, bah, là, on ne peut pas imaginer demain que 100% des publics qui sont accueillis dans ces dispositifs retrouvent tout de suite du pérenne. Mais c'est l'objectif à terme.
En attendant, le modèle du Kilimandjaro peut être duplicable pour aider d'autres familles. François Bouy, l'entrepreneur, en est convaincu.
En fait, ici, on a voulu, avec le Souffle du Nord, créer un prototype. On a montré que ça marchait. On est capable maintenant de dire, bah voilà, des logements vacants, il y en a plein. On va dire, allez, balance ton lieu. Nous, on va te le rendre utile. C'est-à-dire qu'en plus, moi, je vais pouvoir, par exemple, bénéficier d'une réduction de mon impôt sur les sociétés de 60% parce que je fais le don, en fait, d'un local. Voilà, et donc je vais pouvoir déduire 60% d'un loyer théorique de mon impôt sur les sociétés. Donc même économiquement, on peut y trouver un intérêt. En plus, c'est vrai qu'un assureur n'aime pas assurer un bâtiment vide parce qu'il y a des risques de vandalisme, il peut être squatté, il peut y avoir des fuites, on s'en rend pas compte, puis après le bâtiment se détériore. Là, il est occupé, il est entretenu, et en plus économiquement, je peux toucher quelque chose en plus, donc c'est voilà. C'est pas l'argument premier pour moi, clairement, mais néanmoins, ça peut être un argument intéressant pour des gens qui ont des locaux vacants.
Dans la métropole de Lille, entre 3 et 4 000 personnes sont sans abri.
Un reportage de Lise Verbeck, et à quelques jours de l'échéance, l'association Le Souffle du Nord estime qu'il y a de grandes chances que le projet de Bondu se poursuive, voire se reproduise ailleurs, en attendant que ces familles aient un logement stable et décent. En Irlande, une jeune femme est devenue le symbole de la lutte contre les violences sexistes. Elle s'appelle Natasha O'Brien et le Parlement irlandais lui a même rendu hommage. Natasha O'Brien a été battue et laissée inconsciente dans la rue par un soldat. Ce dernier a été jugé et condamné, mais avec un simple sursis. La mesure, jugée injustement clémente, a provoqué des manifestations. Et depuis, l'armée irlandaise a décidé de faire un peu de ménage À Dublin, les précisions de Clémence Pénard.
En 2022, Natasha O'Brien, 24 ans, est attaquée en plein centre de la ville de Limerick par Kyle Curti, lui, 22 ans, un soldat irlandais en service. Elle lui avait demandé d'arrêter de crier des insultes homophobes. Il l'a frappée jusqu'à ce qu'elle perde connaissance. Et quelques heures plus tard, Curti s'est même vanté de son attaque auprès de ses amis sur Snapchat. Curti vient d'être condamné à 3 ans avec sursis et échappe ainsi à la prison. Une peine qui déçoit beaucoup d'Irlandais, dont la première concernée, Natasha, qui a déclaré « C'est une chose d'être victime d'un crime aux mains d'un homme qui s'est engagé à protéger les citoyens. C'en est une autre lorsque le ministère de la Justice l'ignore. » Des protestations à Limerick, mais aussi Dublin et Cork ont été organisées en soutien à la jeune femme. Et c'est dans ce contexte de colère populaire que l'armée irlandaise a décidé d'examiner au peigne fin son personnel. Les généraux se sont réunis en urgence pour identifier des membres autorisés à rester dans les forces militaires alors qu'ils ont été reconnus coupables d'agression. Parmi les cas répertoriés, celui d'un sous-officier de la marine resté en poste près d'un an après avoir plaidé coupable d'une violente attaque qui avait laissé de sérieuses séquelles à une ancienne petite amie. Seront-ils alors définitivement virés des rangs de l'armée ? Aucune précision pour le moment.
Music. La musique, c'est avec Vincent Teval, bonjour.
Bonjour Juliette, bonjour à tous.
Vincent, vous êtes venu cette semaine avec un album qui est à lui seul tout un roman.
Depuis ses débuts, voilà 25 ans, l'Islandaise Emiliana Torrini a su renouveler sa palette stylistique, tantôt pop ou folk ou électro, au fil de projets souvent singuliers. Et son nouvel album, Miss Flower, en est assurément un. Pour écrire ses 10 nouvelles chansons, Emiliana Torrini s'est inspirée de la correspondance de la mère d'une de ses amies. Récemment disparue, cette Geraldine Flower avait laissé des lettres où se devinait une vie très romanesque. Elle avait par exemple reçu 9 demandes en mariage, mais ne s'était jamais mariée. À partir de ces lettres et journaux intimes, la compositrice islandaise a en quelque sorte réimaginé la vie de Miss Flower. Et chaque chanson est inspirée d'une histoire ou d'une personne différente pour un résultat remarquable.
Flower, le dernier album de la chanteuse islandaise Emiliana Torrini, à retrouver sur l'appli Pure Radio, dans le podcast d'Accent d'Europe. Une émission réalisée par Françoise Grelot. À bientôt.